Soviétique, 28 février 1984, Père Philippe Saint-Joseph.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous.
Demandons à l'Esprit Saint, le Père, d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame, du très saint Rosaire,
priez pour
Saint. Nous avions commencé l'éthique religieuse, n'est-ce pas ? En face de l'éthique humaine. Alors on pose cette question. Si l'éthique humaine, si pour l'éthique humaine, le fondement recouvre la finalité, il semble qu'il n'en ait pas de même pour l'éthique religieuse, pour laquelle les traditions suffisent à assurer le fondement. En revanche, du côté subjectif, l'amitié s'inscrit dans l'appétit naturel et ne réclame pas de vertu. L'adoration, quant à elle, apparaît comme une vertu de religion. Non, c'est pas tout à fait juste, ça veut rien. On reviendra là-dessus. N'y a-t-il pas nécessité alors d'un fondement plus rigoureux que les traditions pour élaborer une éthique religieuse ? Vous voyez la petite confusion qu'il y a là, c'est que pour vivre une vie religieuse, les traditions suffisent. Pour élaborer une philosophie religieuse, c'est pas suffisant. On va comprendre pourquoi. C'est très intéressant de voir. C'est justement, c'est ça qui est bien. Parce que quand on met. On voit tout de suite la petite différence qu'il y a. L'éthique humaine, comment nous l'avons vécue ? Alors, quand même vécu une éthique humaine, j'espère. Quoi. Même si nous ne sommes pas très vertueux. On a posé quelques actes d'éthique humaine avant de venir ici, dans la communauté. N'est-ce pas ? Alors, l'éthique humaine, elle est vécue à partir de quoi ? Elle est vécue à partir d'une éducation. Nous l'avons reçue en famille. Et on nous a dit, tu ne feras pas ça. Tu feras ça. Vous avez des petites explications. Puis dans la mesure où il y avait un amour profond entre nous et nos parents, ça a été plus facile. Dans la mesure où la rivalité a commencé, ça a été plus difficile. Mais au fond, c'est dans un climat familial de confiance que nous nous sommes laissés éduquer. Et qu'a commencé en nous notre premier acte moral. Premier acte moral que vous avez posé a été ordinairement un acte d'obéissance. Nous y reviendrons à ça, parce que nous verrons la morale familiale hein, progressivement. Nous voyons tout. Mais ici, puisque la question est posée, c'est intéressant de bien faire la distinction entre l'ordre de l'exercice, comme vous avez commencé à mener une vie morale, le premier moment où vous êtes éveillé à la vie morale, l'âge de raison, comme on dit dans les bonnes maisons, et que l'Église aussi maintient l'âge de raison. Alors, à quel moment ? Piaget disait à ses étudiants que l'âge de raison, c'était à 12 ans. C'était à travers le jeu. Il y a une compétition de jeunes qui se mettent à jouer. Je ne crois pas du tout. Je crois que toutes les mères de famille s'insurgeraient contre ça. c'est beaucoup plus dans l'obéissance qu'on a commencé à comprendre la responsabilité. Et souvent, négativement, quand on a dit non en frappant du pied, alors à ce moment-là, on a compris qu'on brisait. Quand on a obéi au point de départ, ça s'est fait, si on avait un pas trop mauvais caractère, n'est-ce pas, ça s'est fait facilement. Parce qu'on nous présentait quelque chose pour le faire bien, n'est-ce pas. Alors, c'était enveloppé d'affectivité. Alors, enveloppé d'affectivité et de confiance, on l'a fait spontanément. Quelle était la responsabilité qu'on avait là? Pas très grande. On était porté. Notre éthique a commencé dans un nid. On était porté dans la chaleur du nid. Et puis la première fois, on a dit non, on a compris qu'il y avait une rupture. On s'est mis en colère. Alors c'est très possible que quelquefois ce soit par la colère qui ait commencé, hein, une colère d'une désobéissance. Et commencer une conscience plus aiguë. C'est très difficile de savoir à quel moment. Je ne crois pas du tout que ce soit quand le tout petit enfant aime sa mère et qu'il est nourri par sa mère que l'éthique commence. Je ne crois pas. Je crois qu'à ce moment-là, il y a quelque chose d'humain, mais qui est pré-éthique, qui est plus profondément. C'est la confiance d'un tout petit à l'égard de sa mère. C'est l'amour d'un tout petit à l'égard de sa mère. Je dis ça, c'est pour essayer de comprendre, vous voyez, comment commence la première conscience que nous avons eue du point de vue éthique, qu'un enfant ait vaguement conscience quand il était tout petit de l'amour qu'il avait pour sa mère, ce n'est pas encore l'éthique. Je vous ai dit qu'avant le point de vue éthique, il y a un amour spirituel qui nous unit et qui est avant l'éthique. Quelque chose de plus profond, de plus radical, quelque chose de très mystérieux. Et c'est souvent dans l'aspect négatif que nous avons pris conscience de notre responsabilité. Bon. Quand nous avons pris conscience de notre responsabilité et que nous avons commencé à mener une vie morale, nous étions incapables de réfléchir sur la philosophie morale. C'est sûr. Moi, t'as un petit génie, à 4 ans, on m'aurait dit oh, voilà comment il faut élaborer maintenant une vie morale, j'ai compris. C'est à partir de l'obéissance. À partir de l'obéissance. Non, c'est à partir du refus d'obéissance, j'ai compris, c'est ça. Il y a des gosses qui sont très, très astucieux, mais aller jusque-là, je ne crois pas. Je vais vous raconter l'astuce du gosse devant sa mère qui lui commandait quelque chose quand elle était un peu en colère, et le gosse à 4 ans, c'était à Genève, le gosse à 4 ans disant à sa mère: maman, quand tu me le diras autrement, je me dirai. et c'est la mère qui m'a dit ça. Le gosse avait 4 ans. C'est l'élaboration d'un traité de morale et d'éducation, vous voyez. Parce que quand tu le diras autrement, elle n'a pas dit en colère, ça serait dépassé un tout petit peu, mais quand vous le diras autrement, j'obéirai. La mère était furieuse, elle était encore plus furieuse. Il a fallu qu'après, elle réfléchisse en disant: ce petit bonhomme, il est tellement merveilleux. Et alors que c'est grâce à l'admiration qu'elle a eue pour son gosse qu'elle a reconnu chose de très très beau là dans ce qu'il disait. Mais élaborer une philosophie morale, c'est autre chose que la vivre. Alors, sur quoi concrètement repose notre éducation morale? Elle repose sur la confiance naturelle qui existe entre l'enfant et ses parents. Elle se repose donc sur quelque chose de très réel et très profond. C'est bien un amour premier. C'est là où ça commence. ça que lorsque l'on n'éduque pas l'enfant dans la famille, il faut beaucoup plus longtemps pour qu'il acquiert un sens moral. Donc le milieu normal, c'est ça, au point de vue éducatif. Quand je réfléchis au point de vue philosophique, normalement, j'ai dû en vivre. Et je réfléchis philosophiquement sur quoi se fonde mon éthique, la philosophie éthique. Alors je dis à ce moment-là, elle se fonde sur l'amitié. Pourquoi ? Je ne peux pas reprendre ce que j'ai vécu avant. Parce que ça, c'est perdu. Je reprends les choses actuelles. Vous voyez, c'est l'amour des deux côtés. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que le premier moment génétique, qui est la confiance de l'enfant pour sa mère, donc qui est l'amour de l'enfant à l'égard de sa mère, ce premier moment génétique va permettre qu'à partir de là, il va y avoir une activité morale qui va naître. Une activité morale qui va naître et qui va apparaître à partir de l'obéissance. C'est l'importance de l'obéissance. L'obéissance est au point de départ d'un éveil moral. Ça, c'est bien évident. On n'est pas assez grand pour faire un acte tout seul. Alors on le fait grâce à un tuteur. Et l'obéissance est toujours un acte qu'on fait en s'appuyant sur quelqu'un qui a autorité. Même si on ne sait pas très bien. L'autorité maternelle. Alors, c'est l'obéissance. Et la rupture de l'obéissance fait comprendre justement comment, de fait, on est responsable. Puisque la négation va intensifier le point de vue de la conscience. Quand j'obéis tout bonnement à l'intérieur de la confiance, l'amour est tellement grand que je n'ai pas tellement conscience. Je vis. Mais en posant un acte d'obéissance, je pose un acte moral. Je crois qu'on peut dire ça, que la morale humaine commence par là. Le premier, non pas d'ordre génétique ici, mais d'ordre de perfection. C'est-à-dire sur quoi se fonde la philosophie éthique. Je ne dis plus que c'est l'amour de l'enfant pour sa mère. Ça, c'est le premier génétique. Il est très imparfait. Tandis que lorsqu'il s'agit de la philosophie, il faut saisir le premier, le fondement. Alors j'ai dit l'amour de l'éthique. Alors, c'est intéressant à noter que des deux côtés, c'est l'amour. Et c'est les deux extrêmes de l'amour. L'amour de l'enfant pour sa mère est un amour très peu conscient, très instinctif et très peu libre. Un amour humain, il est humain, donc il a quelque chose de spirituel, mais il est instinctif. Tandis que l'amour à l'égard de l'ami est pleinement choisi. Il est parfaitement libre. Alors vous voyez, c'est quand même curieux de voir les deux premiers, le premier génétique et le premier d'ordre de perfection. Et ça, c'est important pour bien comprendre la question posée. Vous voyez ? Alors, au niveau éthique religieuse, quel est le premier génétique ? Premier génétique, c'est le premier vécu. Hein, premier génétique, dans le point de vue, je dirais, là encore, c'est la famille. Si on a eu des parents qui étaient religieux, qui avaient une attitude religieuse, ils nous ont appris à adorer, ils nous ont appris à prier, ils nous ont appris à nous mettre à genoux. Alors, l'obéissance nous a conduit à ça, et il a fallu un acte d'obéissance pour se mettre à prier. Ordinairement, c'est comme ça. Pas tout à fait spontané et direct. Donc, c'est à l'intérieur de la famille, dans ce climat de confiance. Alors, c'est très possible que la mère, elle, c'est en fonction des traditions religieuses qu'elle fait ça. Si elle n'a pas beaucoup critiqué, si sa foi n'est pas très grande, on a toujours fait ça. Dans nos familles, c'est une coutume de faire la prière du matin et du soir. C'est une coutume, vous voyez, c'est une tradition familiale. On le fait de ma famille en famille. Très bien, ça. C'était... Alors à ce moment-là, la famille est enveloppée de traditions religieuses. Tout à fait d'accord. Et ces traditions religieuses maintiennent ce climat de confiance et font qu'à travers l'obéissance, un enfant commence à s'éveiller à sa vie religieuse. Premier génétique. Quel est le premier de l'éthique religieuse? Alors, je suis au niveau philosophique, réflexion philosophique. Quel est le premier dans l'ordre perfection? Alors, ça, c'est intéressant à voir. Là, je dis l'amour d'amitié, mais je dirais l'éthique religieuse n'est pas fondée sur les traditions religieuses. L'éthique religieuse est au contraire pour voir si les traditions religieuses sont justes. L'éthique religieuse peut critiquer les traditions religieuses. C'est normal. Le philosophe a le droit de critiquer, si sa philosophie est suffisamment pénétrante, de critiquer ce que représentent des traditions humaines, des traditions religieuses humaines, pour essayer d'aller plus loin. Donc, on ne peut pas dire que ça repose sur les traditions. Tu vois, ce n'était pas dit. Par rapport à l'éthique, ça reposera sur quoi? Qui est très délicat. Ça repose sur quoi? Là, l'amour d'amitié, je crois qu'on peut le considérer que c'est vraiment ça qui me permet de comprendre, parce que ça me touche la finalité. Ici, la finalité, c'est quoi? C'est atteindre Dieu. C'est reconnaître la toute-puissance de Dieu et du Dieu créateur. C'est dans l'adoration. Alors, on pose au moins une question. Je pose une question, parce que c'est intéressant d'y réfléchir. Alors, est-ce que c'est l'adoration qui est le premier acte de la vie religieuse, comme nous allons voir? Est-ce que c'est l'adoration qui fonde et en même temps finalise l'éthique religieuse? Je pose au moins l'interrogation. Que j'ai pas beaucoup pensé, c'est bien d'y avoir pensé. J'ai beaucoup pensé ici. Et là, moi, comme quoi toujours, il faut. Parce que c'est. De fait, le problème se pose ordinairement moins, étant donné qu'on fait l'éthique, on essaie de comprendre l'éthique humaine, et puis après, on voit le niveau éthique religieuse. Alors, d'une certaine manière, l'éthique humaine étant fondamentale, c'est là où on cherche le point de vue du fondement avant tout. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'éthique religieuse. Alors y a-t-il un nouveau fondement? Le fondement de l'amour d'amitié est un fondement lointain. Je peux très bien vivre de l'amour d'amitié et ne rien comprendre à l'attitude religieuse. Et de vrais amis, et des amis qui s'aiment vraiment profondément et qui ont un sens très grand d'une responsabilité. Il y a des gens qui ont une morale humaine authentique, un sens de la justice, un sens du devoir, un sens de la responsabilité, qui ont même des vertus de tempérance, des vertus de force, des vertus de prudence, et qui n'ont aucun sens religieux. Ça se voit. L'attitude religieuse pour eux, non. Ah, ils ne crient pas, ils ne mangent pas trop du curé, mais presque. Hein, c'est... Non, ils ne veulent pas y penser. C'est en dehors. Donc, l'éthique religieuse et l'attitude religieuse semblent pas apparaître. Il faut donc qu'il y ait un nouveau fondement. Puisque de fait, il y a une dépendance. On ne peut pas nier qu'il y a une dépendance. Et cependant, il y a une certaine autonomie entre les deux. L'éthique religieuse, pour nous, comprenons bien, l'éthique religieuse ne pourra s'établir au point de vue proprement philosophique que s'il y a eu une philosophie première qui l'a fait découvrir l'existence du Créateur. Si je n'ai pas découvert l'existence du Créateur, je pourrais réfléchir sur l'éthique religieuse. Alors, à ce moment-là, à la place de la philosophie première, c'est les traditions religieuses. Mais ces traditions religieuses, ce sont des opinions. Donc ça ne me permettra jamais d'établir une éthique philosophique religieuse, puisque ça ne reposera pas sur quelque chose d'évident et de certain. Alors, je pourrais dire que l'éthique religieuse donc se fonde sur ce que j'appelle en philosophie la sagesse philosophique, c'est-à-dire la théologie naturelle. C'est vrai, elle la présuppose, mais elle ne se fonde pas sur ce point de vue de la philosophie première, parce que ce fondement, il est trop lointain. C'est un point de vue spéculatif. Même si c'est un point de vue de sagesse, il est trop lointain. Le fondement de l'éthique philosophique religieuse semble bien être l'acte fondamental de l'attitude religieuse qui est là. Il me semble, il faut y réfléchir là-dessus, c'est intéressant à se poser comme question. Parce que c'est vrai, ça vaut la peine, il le faut. On l'aurait fait sans doute au terme. Hein. Forcément, il faut qu'on ait terminé un tout petit peu ces quelques réflexions sur la philosophie, sur l'éthique philosophique religieuse. On aurait demandé sur quoi ça se fonde. Puisque dès que vous essayez de structurer un peu une philosophie, forcément, vous voyez les fondements, vous voyez les différents éléments sur lesquels. Mais c'est intéressant de le poser dès maintenant parce que ça nous aidera à mieux comprendre. Vous voyez, quand il s'agit donc de l'éthique humaine, c'est l'amour d'amitié. Ça me semble de plus en plus évident. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est de plus en plus évident. Bon, alors, essayez vous-même de le découvrir progressivement. Ça ne peut pas reposer sur le devoir, ça ne peut pas reposer sur l'obéissance. Ça ne peut pas reposer sur la nature, comme diront certains, la vieille tradition qui dirait l'éthique humaine repose sur la nature humaine. La nature humaine, si elle n'est pas finalisée, il n'y a pas d'éthique. Donc c'est un fondement lointain. Alors ça, j'accepterais. Vous voyez, comme l'éthique philosophique religieuse repose de façon ultime sur la sagesse théologie naturelle, on pourrait dire que l'éthique humaine repose d'une façon lointaine, c'est le fondement lointain sur la nature humaine. Mais ce n'est pas le fondement prochain. Le fondement prochain, c'est la relation. Et ici, c'est la relation. On va essayer de comprendre ces choses-là. Alors, n'y a-t-il pas nécessité alors d'un fondement plus rigoureux que les traditions pour élaborer l'éthique religieuse ? Alors, je suis tout à fait d'accord. Je ne peux pas avoir comme fondement une opinion. Or, les traditions religieuses, au point de vue philosophique, c'est l'opinion. C'est pas plus que ça. Même si j'en suis convaincu pratiquement, c'est l'opinion. Ce n'est pas critiqué. Ça reste une vraie tradition. Donc, on ne peut pas élaborer une philosophie sur une opinion, sur des opinions. C'est pas possible. On peut vivre d'opinion. On peut vivre d'opinion. souvent vivre de pire. Quand vous faites un acte d'électeur au niveau politique, vous vivez sur des opinions. Ça, c'est bien évident. Il y a des quantités d'actes politiques que nous posons, c'est sur des opinions. Et quelquefois, nous posons certains actes religieux sur des opinions. La prudence peut très bien se servir d'opinion. C'est normal, au point de vue pratique. On n'a pas tout à tout savoir. Autrement, on attendrait indéfiniment de poser un acte. Là, ah, j'en suis pas encore là. Non, vivez. D'abord, prions, vous libérez. Il faut d'abord vivre. Puis ensuite, on fait la réflexion philosophique. Mais si on attendait de savoir ce que c'est que l'amitié au niveau philosophique avant d'aimer, on serait le plus malheureux des hommes. Et on ne pourrait jamais élaborer la philosophie de l'amour et de l'amitié si on n'avait pas une certaine expérience. La vie est toujours antérieure à la philosophie. Bien évident. La philosophie est au service de la vie pour la rendre parfaite. C'est pour ça qu'il faut tout le temps discerner le premier dans l'ordre génétique et le premier dans l'ordre de perfection. C'est une petite distinction capitale. Parce que cette distinction-là nous libère complètement. Alors, continuons cet effort sur l'éthique religieuse hein, que nous avions commencé à voir comment il y a nécessairement une nouvelle dimension éthique à partir du problème de l'existence du Créateur. Il faut toujours se rappeler ça, que pour l'homme, que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas, c'est une question qui n'est pas secondaire, c'est une question essentielle. Et ça, il faut l'affirmer, la réaffirmer tout le temps, parce que c'est quand même quelque chose dont les hommes d'aujourd'hui ont besoin d'entendre ça. Parce que trop facilement, ils vivent chloroformés par rapport à ce problème. En disant, ça n'a pas d'importance, on verra plus tard, plus tard. Mais non, c'est essentiel. Toute notre vie humaine est changée, si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Il y a une orientation de notre vie qui est différente. Alors, il faut comprendre qu'avec le problème de l'existence de Dieu et du Créateur, on va découvrir une nouvelle dimension dans l'homme. Et cette nouvelle dimension dans l'homme, c'est sa relation sacrée. C'est une éthique sacrée. Elle est religieuse, donc elle est sacrée. C'est une éthique qui a une relation vis-à-vis de Dieu. Et c'est une éthique qui essaie d'étudier, de voir cette relation particulière qui existe entre l'homme et Dieu. En comprenant que cette relation particulière de l'homme à l'égard de Dieu est beaucoup plus immédiate au niveau volontaire, au niveau amour, qu'au niveau intelligence. Alors là, c'est aussi très intéressant à voir. Alors, il y a un parallélisme à faire. On va essayer. Il s'agit de choses qui sont pas pour moi. Alors, il faut être attentif. Au niveau spéculatif, nous avons la philosophie première dans sa phase qui étudie ce qui est en tant qu'être. Puis, la philosophie première se transforme en théologie naturelle, en sagesse, pour regarder l'être premier. En éthique, donc en philosophie pratique, éthique, Nous avons une première partie de l'éthique, l'éthique humaine, autour de la moralité. Nous avons une seconde partie, l'éthique religieuse, qui est le lien de l'homme avec le Créateur. Grosse question qui serait intéressante à se poser, c'est de voir, est-ce que la relation entre philosophie première et théologie naturelle, la relation entre les deux, est-elle la même qu'entre éthique humaine, 3, et éthique religieuse, 4? Nous avons la même relation. Ça, c'est intéressant à se poser. C'est pas si commun. Hein? Parce que c'est la même relation. Et c'est très intéressant, parce que sous-jacent, vous voyez, on va découvrir la relation différente de l'intelligence par rapport à Dieu, et la relation de la volonté. L'intelligence comme telle, hein, l'intelligence, nous découvre l'existence de l'être premier, donc du Créateur, que par un intermédiaire. C'est-à-dire dans une démonstration. Dieu n'est pas directement donné à l'intelligence humaine. Dieu n'est pas évident à l'intelligence humaine. C'est pour ça qu'au niveau purement philosophique, je ne peux pas dire que celui qui n'a pas découvert Dieu est incipiens. Vous voyez, je peux le dire par la foi, en récitant les psaumes, mais pas dans l'intelligence humaine au point de vue philosophique. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est athée, qu'il ne croit pas en Dieu, espèce d'incipiens. Vous ne pouvez pas le dire philosophiquement. Au point de vue de la foi, dans le fond de votre cœur, vous pouvez dire l'incipiens dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. En même temps, le saluant. Parce que c'est bien, ça rectifie la situation. Mais au point de vue purement philosophique, vous savez que l'existence de Dieu ne s'impose pas à l'intelligence humaine. Puisqu'elle ne s'impose pas, l'intelligence humaine peut très bien ne pas le découvrir. Est-ce que l'intelligence humaine n'a pas le droit de dire « Dieu n'existe pas » ? Quelqu'un qui vous dit « Dieu n'existe pas », vous pouvez lui dire à ce moment-là « Dieu vous dit une chose énorme et vous ne savez pas ce que vous dites. » Ça, vous avez parfaitement le droit de lui dire. Si vous pouvez lui dire. Vous avez parfaitement le droit de dire que celui qui affirme, celui qui dit « je n'ai pas découvert Dieu », ça, très bien. C'est pas très bien, mais c'est, vous ne pouvez rien lui dire. Hein. Vous ne pouvez rien lui dire, il n'a pas découvert Dieu. Parce que l'intelligence humaine ne découvre pas Dieu par mode d'évidence. Mais celui qui vous dit « Dieu n'existe pas », vous pouvez lui dire « eh bien, mon cher monsieur, vous dites quelque chose que vous ne savez. » Si vous saviez ce que c'est Dieu, vous ne pourriez pas dire qu'il n'existe pas. Le raisonnement de Saint Anselme, c'est pas si bête. Si vous saviez ce que c'était Dieu, vous ne pourriez pas dire qu'il n'existe pas. Mais quand vous dites alors Dieu n'existe pas, vous ne savez pas ce que c'est Dieu. Vous savez qu'il n'existe pas. C'est ça qu'il peut dire. Alors, c'est à ce moment-là qu'il est coincé. C'est un raisonnement indominé, mais c'est un raisonnement qui est très juste. Parce que la négation de Dieu n'est pas une chose intelligente. C'est pour ça que je crois qu'on peut dire que tout athéisme a un a priori affectif. On affirme la négation de Dieu à cause du cœur et pas à cause de l'intelligence. À cause du cœur, donc d'un a priori collectif. On a eu dans son enfance des curés qui nous ennuyaient. Alors on a identifié le curé et Dieu, alors je disais, oh, ça se dit, on est juste. Il y a une espèce d'opposition violente à l'égard de Dieu à cause de ça. Où on a été en présence de telle ou telle attitude particulière qui nous ont mis dans une attitude d'opposition. Alors, comprenons donc que l'intelligence, elle est faite directement pour la métaphysique. Il y a un appétit naturel pour la métaphysique. J'espère que vous l'avez déjà compris. Donc il y a un appétit naturel pour la métaphysique. On est tourné naturellement vers la métaphysique. On aime voir, regarder un beau coucher de soleil. On aime rechercher ce qui est en tant qu'être. Il y a un amour naturel pour la métaphysique, un appétit naturel pour la métaphysique. Il est de temps en temps très très caché, il est de temps en temps en situation limite, cet appétit naturel, mais il s'agit tout simplement d'appeler des scaphandriers pour enlever tout, pour retrouver l'appétit naturel de l'intelligence vis-à-vis de l'être. Y a-t-il un appétit naturel de l'intelligence vis-à-vis de l'affirmation que Dieu existe? Grave question. Alors, puis-je le dire philosophiquement ou puis-je le dire uniquement théologiquement? Philosophiquement, tant que je n'ai pas découvert l'existence de Dieu, je ne peux pas le dire. Donc, c'est en découvrant l'existence de Dieu que je peux dire. Et avant, je ne peux pas. Tandis que je peux dire par rapport tout simplement à la métaphysique dès que j'ai un jugement d'existence. Mon intelligence est faite pour ça. Et là, ici, il y a un moyen terme. C'est par, à travers un moyen terme que je découvre l'existence de Dieu. Donc, je comprends qu'il n'y a pas une continuité absolue entre la philosophie première et la théologie naturelle. Entre, au point de vue pratique, entre 3 et 4, il y a un appétit naturel à l'égard de l'amour d'amitié. Il y a un appétit naturel à l'égard de Dieu créateur. Il y a un appétit naturel, en continuité. Autrement dit, la volonté est plus proche de Dieu que l'intelligence. Notre cœur est plus proche de Dieu que notre intelligence. C'est très important de comprendre ça. Alors, vous voyez que la philosophie pratique, qui est le point de vue de la volonté, il y a donc une continuité plus grande entre l'éthique humaine et l'éthique religieuse. Il y a une continuité plus grande. L'éthique humaine demande de se prolonger dans une éthique religieuse plus immédiatement que la philosophie première par rapport à la théologie naturelle. Il ne faut pas exagérer, mais il y a quelque chose qu'il faut souligner et qui est important à souligner. C'est que lorsqu'il s'agit d'un appétit naturel, donc d'un appétit au sens fort, il y a un lien plus direct de la volonté du cœur par rapport à Dieu, l'intelligence. Et donc, par le fait même, vous voyez que le fondement, ceci c'est toujours pour expliquer le fondement, c'est pour expliquer que le fondement de l'éthique religieuse est le prolongement du fondement de l'éthique naturelle. Bien qu'il y ait quelque chose de nouveau, et c'est pour ça qu'on pourra distinguer un fondement lointain, un fondement plus proche et puis un fondement très proche. Oui, je crois qu'il y a tout cela. Si je veux essayer de comprendre le fondement de l'éthique religieuse. Le fondement lointain, c'est la nature humaine. Le fondement de l'éthique naturelle, c'est l'amour d'amitié. Et comme il y a un lien plus grand entre l'éthique humaine et l'éthique religieuse, je comprends comment ce fondement va demeurer dans l'éthique religieuse. Mais va être précisé par le point de vue proprement de l'adoration. Donc, comprenons que dès que, au plan philosophique, on découvre l'existence de l'être premier, il y a tout de suite un nouveau problème qui se pose. Comment l'homme va-t-il répondre dans sa vie à cette existence qu'il vient de reconnaître? Il ne peut pas atteindre directement Dieu, donc il ne peut pas le contempler. Mais il peut, dans son affectivité, reconnaître sa dépendance totale vis-à-vis de Dieu, et la reconnaissance de cette dépendance totale à l'égard de Dieu, c'est l'acte d'adoration. Donc il peut adorer. Et en adorant, il y a en lui quelque chose de nouveau, un prolongement de sa personne. Et la personne est l'acte. La personne est l'adoration. Comme vous pouvez dire, la personne est l'amour d'amitié et la personne est l'adoration. Il y a un prolongement, une explicitation de ma personne humaine à travers et dans l'acte d'adoration. Qui est ce prolongement vécu de mon amour qui va atteindre celui qui est mon créateur et qui l'atteint à travers une reconnaissance de ma totale dépendance à son égard. Je reconnais que je suis totalement dépendant de lui et je reconnais en même temps qu'il m'aime. Et parce que je reconnais qu'il m'aime, je peux, à ma manière, répondre à son amour. Et je réponds à son amour en l'adorant. Oui, c'est assez complexe, mais au fond, c'est en même temps ce qui montre combien il y a un prolongement nécessaire de la personne humaine dans cette attitude religieuse. Il y a un prolongement nécessaire. Je reconnais ma dépendance, et cette dépendance, elle m'est aimable. Je l'aime parce que je découvre que celui dont je dépends, c'est celui qui m'aime. Et qui m'aimera toujours beaucoup plus que je ne peux l'aimer. Et qui m'aimera toujours beaucoup plus que je ne peux l'adorer. Donc je reconnaîtrai ce primat de l'amour du Créateur sur moi, et ce primat de l'amour du Créateur sur moi me permettra d'avoir totale confiance en lui et de me remettre entre ses mains. Je retrouve l'attitude, analogiquement, du tout petit enfant à l'égard de sa mère, je dis bien analogiquement, et je retrouve l'attitude de l'amour d'amitié. Si je veux comprendre ce que représente cet acte d'adoration, qui est l'acte premier sur lequel va se fonder toute mon éthique religieuse, je vois que les deux extrêmes, l'amour d'amitié et l'amour de l'enfant vis-à-vis de sa mère, sont les deux analogies que dont je peux me servir pour comprendre l'amour, pour comprendre l'adoration. Ce sont les deux analogies. Je vais les expliciter pour que vous les compreniez bien. Parce que c'est intéressant, parce que ça montre le prolongement qui existe entre ces deux éthiques. Quand je comprends, quand je saisis que le Créateur dont je dépends et dont je dépends totalement dans mon être, m'a créé par amour et dans un amour de pure surabondance, que je ne lui ajoute rien et que je ne peux rien lui ajouter. Et donc, il n'a pas du tout créé pour lui. Il a créé pour moi, dans un amour totalement désintéressé. Je comprends à ce moment-là que la dépendance que j'ai à son égard est une dépendance qui ne m'aliène pas, mais une dépendance au contraire qui me libère, qui me donne mon autonomie, qui me donne ce que je suis. Et je peux aimer cette dépendance. Je la reconnais et je l'aime. Et en l'aimant, j'adore. J'ai une totale confiance. La confiance du tout petit enfant à l'égard de sa mère. C'est une confiance qui va beaucoup plus loin. Parce que c'est à l'égard de celui qui est source de tout mon être. Donc c'est une confiance qui va beaucoup plus loin. Et en même temps, c'est une confiance que j'accepte librement comme j'accepte l'amour de mon ami. Il y a un amour mutuel qui va s'établir entre les deux. Un certain amour mutuel. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles,